Donc déjà, je veux commencer par remercier le Seigneur parce que, en fait, j'arrive pour donc délivrer un message, mais comme dans un chausson, en fait. Tant effectivement, ça a été conduit par le Saint-Esprit jusqu'à présent. C'est voilà, merci Seigneur. Et donc, mon message s'intitule Les yeux dans les yeux. Et donc, je vais démarrer par donc quelques versets du chapitre 15 de l'évangile de Jean, versets 4 à 8. Demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, évidemment. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pourrez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est un vaste programme, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on peut dire à propos de ces passages, c'est que dès qu'une personne croit en Christ et reçoit le pardon de ses péchés, elle reçoit en même temps la vie éternelle et le pouvoir de demeurer en Christ. Dès qu'il a reçu ce pouvoir, le croyant doit également accepter la responsabilité nouvelle qu'il assume pour son salut. Il doit également demeurer en Christ. Le terme grec meno signifie rester, demeurer, continuer, demeurer ou vivre. Tout comme le sarment n'a la vie que si la vie du cep coule en lui. Les croyants n'ont la vie que si la vie de Christ coule en eux. Pour cela, ils doivent demeurer en lui. Alors, qu'est-ce que ça signifie demeurer en lui? Alors, pour demeurer en Christ, nous devons faire les choses suivantes. Donc, il y a quatre points. Premier point, c'est garder la parole de Dieu continuellement dans notre cœur et notre intellect et la laisser guider nos actions. Ça, c'est le verset 7. Le deuxième point, c'est entretenir une communion constante et intime avec Christ afin de tirer de lui la force nécessaire. Troisième point, bien sûr, c'est obéir à ses commandements. Premier commandement qu'il nous donne, c'est demeurer dans son amour. Donc, c'est Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Deuxième commandement qu'il nous donne, qui résume vraiment toute la loi, quelque part c'est ça, hein, demeurer dans son amour et s'aimer les uns les autres. C'est Jean 15, versets 12 et 17. Verset 12 nous dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Verset 17 nous dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le quatrième point pour donc demeurer en Christ, c'est mener une vie pure à l'aide de sa parole en résistant au péché et en s'abandonnant à la direction du Saint-Esprit. Puis, au verset 16, le Seigneur nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce verset résonne avec le verset 7 qui nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tous les chrétiens sont choisis du milieu du monde pour porter du fruit. Cette fertilité est une allusion, premièrement, aux vertus spirituelles telles que le fruit de l'esprit que nous retrouvons dans Galates 5, 22-23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On retrouve ces vertus spirituelles dans Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc porter du fruit, donc voilà, c'est également une allusion à l'œuvre visant à mener des âmes à Christ. Mes chers amis, marchons dans la lumière. Ne nous laissons pas envahir par les ténèbres ambiantes. Que notre seule influence soit la parole de Dieu. Demeurons en Christ en marchant sous son regard d'amour et en gardant les yeux fixés sur lui. Marchons les yeux dans les yeux avec le Seigneur. En fait, nous devenons ce que nous contemplons. Plus nous contemplons Christ, plus nous lui ressemblons. Plus nous contemplons sa gloire, plus nous marchons de gloire en gloire. La parole de Dieu atteste cette réalité dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Dans ce verset, la parole nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, c'est-à-dire sans voile, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Gardons les yeux fixés, les yeux dans les yeux, avec le Seigneur. Aspirons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, nous sommes tous morts et ressuscités avec Christ et nous sommes assis à la droite de la gloire divine. C'est alors qu'en Jésus et lui en nous, nous pouvons contempler sa gloire, sa magnificence, sa splendeur. Enfin, on pourrait énumérer énormément de caractères de Christ, mais en somme, nous pouvons contempler les merveilles de son amour, en fait. Tout se résume dans son amour. La cause de toute chose, c'est l'amour. La finalité de toute chose, c'est l'amour. L'amour de Dieu est sans limite. C'est un amour qui se donne sans réserve, sans condition. Jésus n'a pas demandé quoi que ce soit pour venir à la croix. Il s'est livré lui-même par amour pour toute l'humanité. Jésus a donné sa vie, il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la vie. Il a tout accompli, il a tout vaincu par amour pour nous, afin de nous sauver et surtout de nous justifier auprès du Père. Le juste vivra par la foi. Laissons-nous tout à nouveau toucher par l'amour du Père. Ne baissons surtout pas les yeux. Dans ces temps ô combien difficiles, relevons la tête et laissons-nous bouleverser tout à nouveau par son amour. Dans l'adversité, chantons, louons, adorons notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Dans ce face-à-face, les yeux dans les yeux avec Jésus, écoutons son amour s'exprimer et nous dire, dans le Cantique des Cantiques 2, verset 14. Ça, c'est un verset qui me touche à chaque fois, ça me... Waouh ! Ma colombe qui te tient dans la fente du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, Ça nous ressemble un petit peu quand même, ça. Hein, on se cache quand même un peu. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Plus loin, dans le chapitre 4 et verset 9 du Cantique des Cantiques, il nous dit quelque chose qui me bouleverse à chaque fois. Et je vous le dis, et je suis... Ouf. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton cou. Vraiment, ma prière, c'est que nous puissions tous rencontrer un tel amour, qu'en comprenant le chemin du lieu très saint, demeurant dans la présence de Christ, nous nous jetions sans réserve dans les bras d'amour de notre Père. Ma prière, c'est que nous nous abandonnions à lui, que nous capitulions devant son amour. Dans cet amour sans limite, nous sommes sauvés, lavés, purifiés, guéris. Et j'en passe parce qu'on ne peut pas énumérer tout ce que son amour fait pour nous. Mais nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Enfin, pour vous raconter une petite anecdote, ce que j'ai compris de cet amour, c'est que, en fait, avant de connaître Jésus, avant de connaître son amour, de bien comprendre ce qui se passe dans sa présence, je courais partout pour chercher quelque chose que je ne trouvais jamais. Et une fois qu'on a trouvé cet amour, on dit, c'est ça que mon cœur aime, c'est là que je veux être, dans son amour, dans sa présence. En fait, on a tout ce dont on a besoin pour vivre dans son amour. C'est la vie en abondance dont Jésus nous parle dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comme en parlait Dominique tout à l'heure, l'abondance, c'est la prospérité de notre âme et à tous égards. C'est vraiment ça, qu'on soit assis avec lui dans les lieux célestes. Qu'il y ait quelque chose qui nous conduise à être comme ce petit enfant repu sur le sein maternel, qui ne se pose pas de questions. Il est bien, il est plein, il est rempli. L'amour de Christ est un amour actif. Ce n'est pas juste un amour passif, mais c'est un témoignage quotidien. J'oserais dire, il se retrousse les manches et il s'implique dans nos vies chaque jour. À l'image de Christ, nous aussi, nous devons porter du fruit, c'est-à-dire avoir un témoignage quotidien de l'amour du Seigneur pour chaque personne. C'est l'amour du Seigneur qui nous pousse à le partager aux autres, à ceux du dehors. C'est en contemplant les merveilles de son amour, en nous sentant aimés, que nous aimons le Seigneur en retour et que nous sommes amenés à nous dépouiller, à mourir à nous-mêmes, à porter notre croix. Ça, c'est un gros mot, ça. Hein. Quand même, c'est difficile, hein, porter notre croix. Mais ça, le but, c'est pour le suivre lui et lui seul. Dans la perspective de l'amour du Père, dans le désir des délices de sa présence, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Donc, dans le désir des délices de sa présence, il me semble que ce n'est pas trop difficile de mourir à soi-même pour connaître de plus en plus les profondeurs de sa personne, pour le suivre, pour aller plus loin avec lui. C'est comme si on allait plus profond pour aller plus loin. C'est vraiment ça. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, mes chers amis, ne nous laissons pas assombrir par les ténèbres ambiantes, mais au contraire, dans ces temps difficiles, demeurons en Christ pour porter du fruit et d'ainsi glorifier notre Père. Pour moi, porter du fruit, c'est ressembler de plus en plus à Christ dans son caractère. Alors, ça évoque encore les fruits de l'esprit, enfin le fruit d'esprit de Galates 5, 22, 23 dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi se comporter comme Christ. En somme, être ses témoins. Vaste programme. Parce que si on doit tout accomplir, c'est difficile. Mais heureusement, la parole nous aide à comprendre ce que cela signifie. Jésus nous donne les clés pour que nous puissions lui ressembler. Dans Luc 4, versets 18 et 19, Jésus décrit son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça les merveilles de son amour. C'est ça, porter du fruit. Jésus indique dans ce passage des Écritures le but de son ministère sous l'onction du Saint-Esprit en quatre points. Premier point, prêcher l'évangile aux pauvres, aux indigents, aux affligés, aux humbles, à ceux qui ont le cœur brisé et à ceux qui craignent sa parole. Deuxième point, guérir physiquement et spirituellement ceux qui sont meurtris et opprimés. Troisième point, ouvrir les yeux spirituels de ceux qui sont aveuglés par le monde et Satan, afin qu'ils perçoivent la vérité de la bonne nouvelle de Dieu. Quatrième point, proclamer le jour de la vraie liberté et du salut, de la délivrance de l'empire de Satan, du péché, de la crainte et de la culpabilité. La crainte, un vaste sujet aussi. Jésus nous libère de la crainte. Faisons-lui confiance. Que notre foi se place vraiment en lui. Comme disait Antoine il y a quelques semaines, ou la semaine dernière, je ne sais plus, il y a des croyants incrédules. Ne soyons pas incrédules. Mais soyons réellement croyants. Croyons que Jésus est avec nous, quoi qu'il arrive. Je dirais que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas dans le temps où on va déclarer les choses. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Mais au moins, on aura témoigné de l'amour. On aura essayé. On aura essayé. En fait, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont appelés à participer au ministère de Jésus de ces différentes manières. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Le ciel est ouvert au-dessus de nous. Et on a toute l'assistance du Saint-Esprit avec nous, toute l'assistance du Seigneur. Il est fidèle et il ne nous abandonnera pas, sur le champ de bataille, je dirais. Les évangiles regorgent de nombreux exemples concrets de l'exercice du ministère de Jésus. Dans le livre des Actes, nous voyons comment les apôtres, à partir de la Pentecôte, ont continué à exercer le ministère de Jésus. Il serait évidemment trop long ici de relater tout ce que Jésus a fait pendant ces 3 années de ministère sur la terre. Mais j'ai sélectionné 3 versets pour illustrer la puissance de son ministère. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, Jésus évidemment, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Troisième verset que j'ai sélectionné, c'est Romains 15, versets 18 et 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Et écoutez bien le verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ça, c'est Paul qui parle, hein. C'est pas moi, évidemment. Mais bon, on pourrait le dire aussi, parce que nous sommes appelés à ça. En effet, à l'image de Jésus et à l'image des apôtres, et de Paul en particulier, nous sommes appelés à exercer le ministère dans cette dimension-là. Toutefois, comme Jésus, comme ses disciples, ont dû attendre d'être remplis du Saint-Esprit pour commencer leur service pour Dieu. Il est évident que personne ne le peut par ses propres forces. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pourquoi, si nous voulons exercer le ministère dans lequel le Seigneur nous appelle, nous devons demeurer en lui et lui en nous, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Gardons les yeux dans les yeux avec le Seigneur. À l'image de Jésus qui ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire, marchons dans l'humilité, surtout dans l'humilité, sous l'onction du Saint-Esprit, et allons chercher dans le ciel la volonté du Père et obéissons. Dieu est saint. Dieu est saint, et en fait, quand on essaie de comprendre la sainteté de Dieu, on s'aperçoit qu'on contemple ses merveilles. Ses merveilles, le surnaturel, vraiment les signes, les miracles, les prodiges, c'est vraiment Dieu. Et vraiment que le surnaturel de Dieu soit notre naturel dans la guérison des malades, les signes, les miracles et les prodiges. En effet, la prédication de l'Évangile ne repose pas sur la sagesse des hommes, ou surtout pas, mais sur la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui donne envie de suivre Christ. Impacter ce monde qui souffre tant du péché par l'amour de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, on peut faire des bonnes œuvres, c'est un bon début. On peut donner de la nourriture aux pauvres, on peut être dans des associations caritatives, des associations humanitaires, et Dieu n'est pas contre ces choses, au contraire. Mais ça, c'est un socle, c'est le minimum, je dirais. Mais en fait, si on fait ça, on ne fait pratiquement pas de différence avec ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Parce que le monde fait déjà ça depuis très longtemps. Pour ma part, en tout cas, ce que je comprends, c'est que peut-être que je me trompe, hein, je parle sous le contrôle des autorités de cette église, mais pour moi, en tout cas, si on veut que les gens se tournent vers le Seigneur, il faut les impacter dans le surnaturel. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait de ville en ville. Il faisait du bien, c'est-à-dire, oui, il faisait du bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais surtout, il guérissait les malades. Et ça, ça impacte. Par la puissance du Saint-Esprit, ça ouvre un chemin pour le salut. Ça ouvre un chemin pour la compréhension que les gens sont sous la domination de Satan. Et en faisant comme ça, on les retire de la domination de Satan. C'est pas nous, hein, c'est Jésus qui fait tout, hein, attention. Mais on est participant. On participe, on est co-ouvrier avec lui. Et c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment ce que je porte. C'est vraiment... J'attends ça. Je veux vraiment aller dans ces choses. Alors, portons du fruit pour que notre Père soit glorifié. Et je terminerai par ces quelques versets qu'on connaît tous, cette prière que Jésus a faite et que nous faisons aussi régulièrement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci.